Le Salon de l'immobilier de l'investissement de Paris, du 8 au 10 octobre 2021, au Carrousel du Louvre, sur Radio Immo.
Bonjour à vous, chers auditeurs de Radio Immo. Merci d'être toujours présents à midi pétante pour cette nouvelle interview. Alors, si je vous disais qu'il existait un monde où on peut cumuler sécurité locative, tranquillité de gestion, avantages fiscaux, vous ne me croyez pas ? Avec moi, eh bien, deux témoins. Raphaël Bonnet, chargé de mission pour Solibail. Bonjour.
Bonjour.
À votre droite, Hamza Deschicha, référent Solibail. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est vrai que la promesse a l'air très belle. Expliquez-nous exactement ce que vous faites chez Solibail.
Bon, Solibail, tout d'abord, il faut un peu contextualiser. C'est un dispositif public. C'est un dispositif mis en place par la préfecture d'Île-de-France, par la DRIL plus particulièrement, donc la délégation régionale et interdépartementale pour l'hébergement et le logement. Et c'est ce qu'on appelle de l'intermédiation locative. Donc l'intermédiation locative, c'est quoi ? On va en fait chercher un propriétaire bailleur qui va louer auprès d'une association mandatée par l'État, qui va elle-même sous-louer. Ça s'inscrit dans le cadre du logement d'abord. Donc en fait, ce qu'on vient chercher en particulier, ce sont des familles qui viennent de centres d'hébergement et qui ont vocation à intégrer le logement pérenne, donc le parc social. Et c'est comme ça que ça marche. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui au Salon de l'Immo. C'est pour, un petit peu contacter des propriétaires qui sont en voie d'investir et les sensibiliser justement à cette stratégie.
Donc, si je peux vulgariser le propos, on pourrait résumer ça à de l'investissement finalement garanti par l'État ?
C'est pas non plus ce qu'on essaye de dire, dans le sens où, bien évidemment, au Salon de l'Immo, on montre les différents avantages qu'il y a. Il y a effectivement des avantages fiscaux conséquents lorsqu'il y a une convention ANA. Et en plus, on peut, de façon non cumulable, avoir recours au Pinel. Mais il ne s'agit pas non plus de penser que c'est un effet d'aubaine, dans le sens qu'il y a aussi une partie de sollicitation des propriétaires. C'est, elle reste une initiative qui est sociale. Donc, ce n'est pas forcément de l'investissement qui est purement garanti dans l'État. En tout cas, l'idée, c'est tout simplement de solliciter le parc privé.
En tout cas, c'est intéressant de savoir derrière quel est le profil, finalement, des investisseurs qui font appel à ce type de solution.
Tu veux répondre ou je réponds ? Ok. En fait, on a des propriétaires de différents types. Quand on regarde la distribution totale, on se rend compte qu'on a 70% de ce qu'on appelle des monopropriétaires, donc tout simplement des propriétaires qui ont un bien, et 30% de propriétaires de multipropriétaires qui ont différentes propriétés. Donc ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'on va avoir des gens qui parfois se retrouvent avec un bien parce que, par exemple, ils ont hérité ou pour des raisons X ou Y, mais qui n'ont pas forcément envie de faire de la gestion directe, qui ne sont pas familiarisés avec le dispositif et qui cherchent en fait la tranquillité de gestion que donne le fait d'avoir une association qui va être en contact avec les sous-locataires, qui s'occupe de garantir qu'il n'y ait pas de non-paiement, qui s'occupe aussi d'éviter qu'il y ait des dégradations, ou en tout cas lorsqu'il y a des dégradations, de remettre en état. Mais en tout cas, des gens qui cherchent principalement à se désolidariser en fait de ce travail. C'est pas de la délégation, il ne faut pas le voir exclusivement comme ça, mais des gens qui ne sont pas familiarisés au travail en fait de la location. Et de l'autre côté, par contre, on va avoir des multipropriétaires qui, eux, cherchent aussi cette tranquillité, mais qui sont aussi parfois plus dans le calcul de se dire « Bon, moi, j'ai pas envie de payer systématiquement 10% de mes revenus locatifs. Et par ailleurs, j'aime bien cette tranquillité dans les rapports avec mes locataires. »
Bon, allez, comment ça fonctionne très concrètement, les protocoles ?
Alors, en tant que propriétaire, donc vous confiez votre bien. Il y a un premier écrémage qui est réalisé au niveau de la plateforme. Donc on vérifie typologie, superficie et géolocalisation. Le but est que le logement soit bien desservi par les transports en commun. Le but est que la famille puisse rejoindre Paris au bout d'une heure et quart. Donc une fois que nous jugeons au niveau de la plateforme que le logement est bien éligible, nous envoyons la candidature auprès d'un opérateur capteur, donc, qui va s'assurer auprès du propriétaire donc, de lui faire une estimation de loyer. Donc, ces estimations sont basées sur le barème à loyer intermédiaire de l'ANA. Si la proposition est acceptée, un technicien se déplace visiter le logement. Voilà. Le but de cette visite est toute simple. C'est de s'assurer que le logement réponde bien aux normes de décence et de sécurité de mise en location. Une fois la partie technique passée, donc le logement est validé auprès du groupement d'intérêt public. Le tout prend entre 3 et 4 semaines, donc c'est assez rapide pour le propriétaire afin d'avoir une validation et une signature de bail.
C'était précisément ma question, parce qu'effectivement, derrière cette volonté vertueuse, on a aussi une réalité de lourdeur administrative. Et je voulais savoir ce que ça en coûte de ce côté-là pour le propriétaire.
Bah, ce que ça en coûte, on est quand même sur des délais assez rapides, qui varient entre 3 et 4 semaines. Puisque entre la validation technique et administrative, je dirais qu'un délai qui varie entre 3 et 4 semaines est assez raisonnable. Puisque si ce délai venait à se prolonger, la peur serait de perdre ce propriétaire bailleur. Alors qu'aujourd'hui, le but de Solibail est vraiment de collaborer, enfin le but de l'association est vraiment de collaborer avec le propriétaire sur le long terme.
Et par ailleurs, c'est un petit peu le principe, c'est-à-dire on sollicite le parc privé, donc il y a une logique d'interaction entre le public et le privé. Après, par ailleurs, ce qui est un peu important, puisqu'on a oublié effectivement de préciser quel est le spectre d'action, à Paris, vous avez ce qu'on appelle louer solidaire, et nous, on travaille pour la préfecture d'Île-de-France, donc ça sera ce rayon que décrivait Hamza d'une heure et quart, mais ça sera la petite et la grande couronne. Une heure et quart, une heure et demie, ça dépend. Mais bon, ce que je tenais à souligner, c'était plutôt qu'en fait, c'est quand même un très grand territoire, donc il y a effectivement beaucoup d'opérateurs. En tout pour tout, on est 9 opérateurs capteurs, et il y a, je crois, 24 opérateurs gestionnaires. Les capteurs sont ceux qui ramènent le bien, et les gestionnaires sont ceux qui s'occupent en fait du rapport avec les bénéficiaires. Donc c'est beaucoup de gens, beaucoup d'associations. Donc on peut se dire effectivement, lourdeur administrative, fragmentation institutionnelle, et en plus on y rajoute que c'est du public, mais aussi de l'associatif. Mais en fait, ça a été plutôt bien pensé. Et justement, il y a un interlocuteur unique au niveau de la captation. Et c'est-à-dire que c'est la plateforme que nous incarnons et que nous représentons aujourd'hui qui est celle qui en fait va renvoyer auprès des opérateurs. Donc il y a quand même un degré de centralisation. Et en interne, on a par ailleurs une plateforme qui permet aux différents opérateurs de transmettre l'information en temps réel et d'éviter justement de l'envoi constant, de paperasse, comme on pourrait dire. Et c'est ce qui simplifie, c'est quelque chose auquel on pense quotidiennement pour éviter que ça soit trop long et d'avoir trop d'interlocuteurs aussi.
On a parlé de l'avantage fiscal, mais il y a aussi un autre avantage qui compte, c'est celui de la garantie des loyers. Hein. Donc jusqu'où on va en termes de garantie? Est-ce que c'est garanti à 100%? Quelle que soit la condition, quel que soit le délai?
Oui, il y a une garantie de non-paiement. Je ne pourrais pas vous donner plus de précisions, mais normalement, le principe, c'est vraiment, malgré le fait que le sous-locataire ait des difficultés pour des raisons variées, l'association s'engage à vous payer, et c'est l'État qui se porte garant. Donc ce n'est pas en termes de pourcentage, c'est vraiment ce qu'on assure, en fait, au-delà, effectivement, de l'abattement fiscal. Et vous faites bien de le toucher, parce que beaucoup de fois, quand on parle, surtout dans un salon comme le Salon de Limo, on va parler de défiscalisation, de chiffres très durs. Donc on va toucher le 85% d'abattement fiscal sur les revenus locatifs, la possibilité d'avoir recours au Pinel. Mais il y a effectivement des avantages, au-delà de la tranquillité, qui sont difficilement quantifiables, mais qui ont en fait un impact économique réel sur le budget en fait, du propriétaire.
C'est des avantages qui sont forts, qui, j'imagine, ont justement comme volonté de pallier au manque de logements, j'imagine, en France. Hein. De quoi on parle? Quel est le contexte? Vous avez des chiffres de ce point de vue-là?
Moi, je vais surtout vous donner des chiffres sur le nombre de propriétaires qui ont décidé d'intervenir. On compte à l'heure actuelle 6700 logements pour environ 3500 propriétaires. En général, pour la situation en Île-de-France, j'aurais pas envie de vous dire des bêtises, de vous donner des mauvais chiffres, mais effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce dispositif est intéressant à la mesure où il s'inscrit dans la politique du logement d'abord. Donc effectivement, on a une crise du logement en termes d'hébergement, des hébergements qui sont saturés, et par ailleurs, on a un parc social qui est aussi saturé. Donc ce que propose le dispositif, c'est notamment de remplacer ou de limiter ce qu'on a à l'heure actuelle, qui est le recours aux nuitées hôtelières. C'est des chiffres qu'on peut trouver, que malheureusement, je n'ai pas à la main. Mais c'est quelque chose qui est important à savoir parce que ça coûte beaucoup aux contribuables. Et en fait, en faisant ça, même si c'est un dispositif cher parce que c'est du plafonnement de loyer intermédiaire, le but, c'est aussi de réduire en fait, l'argent qui est mobilisé, malgré l'impression qu'on peut avoir d'avoir des effets d'aubaine et de se dire « Oui, mais en fait, l'État, c'est très bien qu'il donne des incitations, mais au bout du compte, le contribuable, qu'est-ce qu'on en pense ? Qu'est-ce qu'il dit, le contribuable ?» Mais en fait, si on pense que c'est des nuitées d'hôtelières qui sont compensées, c'est quand même très attractif, y compris pour l'ensemble de la société.
Le mot de la fin, Hamza ?
Aujourd'hui, Solibail, c'est le dispositif de mise en location le plus sécurisé, j'ai envie de dire, puisque ça permet aux propriétaires de se détacher de beaucoup de contraintes comparées à la voie classique. On signe avec une association, j'ai envie de dire, avec les reins solides, puisque on sait que derrière tout ça, il y a quand même un gros financeur qui est la DRIL. Les qualités apportées par ce dispositif, au niveau de la remise en état du logement en cas de dégradation, du paiement des loyers, de l'abattement fiscal. Donc j'invite aujourd'hui les propriétaires ne connaissant pas ce dispositif à se rapprocher auprès du site internet solibail.fr ou de contacter la plateforme pour plus d'informations.
Merci à l'un et à l'autre pour vos interventions respectives.
Je vous en prie.
Et soyons solidaires.
Soyons solidaires, ce seront les mots de la fin. Merci à vous de nous avoir écoutés. Restez avec nous, on sera toujours en direct du Salon de l'Investissement et de l'Immobilier. À tout à l'heure.
Le Salon de l'Immobilier et de l'Investissement de Paris, du 8 au 10 octobre 2021, au Carrousel du Louvre, sur Radio Immo.